Bonjour. D'ici 2 semaines, les dirigeants des 30 pays membres de l'OTAN vont se réunir ici à Bruxelles. Et demain, je vais présider des réunions virtuelles des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'OTAN. Nous allons aborder toute une série de questions, y compris la marche à suivre pour notre engagement en Afghanistan et l'évolution de la situation en Ukraine et au Bélarus. Mais les ministres vont surtout se concentrer sur les préparatifs pour le sommet. C'est un moment charnière pour notre alliance et pour notre sécurité collective. Dans un monde plus concurrentiel et plus imprévisible, nous avons besoin de l'unité transatlantique. Que l'Europe et l'Amérique du Nord restent côte à côte au sein de l'OTAN. Donc l'objectif de notre initiative OTAN 2030 est de préparer notre alliance pour l'avenir. Durant ces derniers mois, les alliés ont mené des consultations étroites et constructives. Il nous reste encore du travail à faire, mais nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons prendre des décisions ambitieuses et tournées vers l'avenir. Tout d'abord, nous allons renforcer notre unité en menant davantage de consultations sur tous les sujets qui affectent notre sécurité à l'OTAN. Renforcer notre engagement à assurer la défense collective et nous mettre d'accord pour élaborer le prochain concept stratégique de l'OTAN qui tracera la marche pour l'avenir. Deuxièmement, nous allons élargir l'approche de l'OTAN en matière de sécurité, en mettant davantage l'accent sur la résilience, y compris l'infrastructure, les chaînes d'approvisionnement et les communications. Nous allons également prendre des décisions pour parfaire notre avantage technologique et pour mettre la barre très haut pour ce qui est de comprendre et d'atténuer les implications sécuritaires du changement climatique. Troisièmement, nous allons jouer un rôle plus important pour préserver l'ordre international fondé sur le respect des règles, afin de défendre nos valeurs et nos intérêts, pour approfondir nos partenariats avec les pays et organisations qui partagent nos valeurs et forger de nouveaux partenariats. Nous devons également intensifier notre formation, le renforcement des capacités pour nos partenaires. Tout ce travail nécessite la poursuite de nos investissements de défense. Nous sommes sur la bonne voie. Depuis 7 années consécutives, nous avons des augmentations de budget défense de la part des alliés européens et du Canada. Nous devons maintenir cet élan, dépenser plus et dépenser mieux. Les alliés doivent investir davantage ensemble. Mettre en commun nos ressources permet de multiplier nos forces et de renforcer notre sécurité commune. C'est un message puissant d'unité et de détermination vis-à-vis de nos populations et de tout adversaire potentiel. L'OTAN réunit l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous devons continuer à nous adapter à une époque de concurrence mondiale et nous devons continuer à rester unis pour défendre le milliard de personnes qui constituent nos populations. Je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci. Nous allons commencer avec Radio Free Europe. Mikael, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé de la Biélorussie et je me demandais, vous avez déjà condamné ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu une déclaration du Conseil de l'Atlantique Nord et vous avez soutenu les mesures de l'Union européenne. Et je me demandais si l'OTAN, si vous, allez aussi adopter des mesures spécifiques contre la Biélorussie. Par exemple, il y a quelques années, vous avez limité le nombre de diplomates russes qui pouvaient venir au siège de l'OTAN. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de semblable pour la Biélorussie aussi? Les alliés de l'OTAN ont agréé une déclaration très forte. Et nous avons envoyé un message très fort. Nous condamnons fermement le détournement, l'atterrissage forcé d'un avion civil à Minsk. Nous avons aussi appelé qu'il y ait une enquête indépendante internationale. Et nous avons aussi déclaré clairement qu'il s'agissait non seulement d'une violation des normes et des règles internationale, mais une attaque directe contre la liberté d'expression et une presse libre et indépendante. Par conséquent, nous avons aussi appelé à la libération immédiate des deux personnes qui ont été détenues suite à l'atterrissage forcé. Et nous avons aussi dit clairement que nous saluons les décisions qui ont été prises par de nombreux alliés quant à l'imposition de sanctions, y compris la restriction de l'accès de la compagnie aérienne biélorusse à leur espace aérien. Et nous saluons aussi les décisions et les mesures qui ont été mises en œuvre par l'Union européenne. Les alliés de l'OTAN ont donc réagi de manière unie avec une condamnation claire et les alliés de l'OTAN ont aussi imposé des sanctions.
Nous avons maintenant une question de Frankfurter Allgemeine. Oui, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, à Londres, l'OTAN a parlé de la Chine pour la première fois en disant que la Chine présentait à la fois des défis et des opportunités. Depuis lors, l'accent a été mis encore davantage sur la Chine et certains alliés ont adopté un langage plus fort. L'Union européenne parle de rival stratégique. Est-ce que nous allons assister à cette même évolution dans la façon de percevoir la Chine? Est-ce que c'est également une rivalité systémique qui va être reflétée dans le texte du communiqué que vous préparez? Réponse. Merci beaucoup. Eh bien, je ne suis pas en mesure d'entrer dans les détails du texte qui est en train d'être négocié pour le communiqué du sommet. Nous travaillons également sur l'initiative OTAN 2030, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis déjà plusieurs années, et notamment depuis le sommet de Londres de 2019, nous voyons une convergence de positions et d'interprétations parmi les alliés, dont beaucoup qui sont des membres de l'Union européenne, concernant les défis posés par la montée en puissance de la Chine. Nous continuons à penser que ceci présente des opportunités pour nos économies, pour le commerce, et quand il s'agit de relever des défis communs comme le changement climatique. Néanmoins, il ne fait aucun doute que cette montée en puissance de la Chine pose des défis sérieux. La Chine aura bientôt la plus grande économie au monde, le second budget de défense, la marine la plus importante au monde, c'est déjà le cas, et ils investissent beaucoup dans des capacités nouvelles, modernes, y compris des systèmes d'armes hypersoniques et des technologies comme la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, les mégadonnées qui sont intégrées dans leur système d'armes. La Chine n'est pas une démocratie. Ils ne respectent pas la liberté d'expression, la liberté des médias. Et nous voyons comment ils oppressent des minorités et comment l'opposition démocratique à Hong Kong est traitée, comment ils se comportent vis-à-vis de leurs voisins et de Taïwan. Tout ceci a des implications pour notre sécurité. La Chine se rapproche de nous. Nous les voyons dans le cyberespace, en Afrique, dans l'Arctique, et nous voyons la Chine investir dans nos infrastructures critiques ici en Europe. La 5G est un exemple où les alliés ont pris conscience des risques posés par le contrôle dans des mains étrangères et les alliés ont maintenant travaillé sur une compréhension commune de la protection, notamment de nos infrastructures critiques, face à ces défis posés par la montée en puissance de la Chine. Je suis confiant quant au fait que quand les dirigeants de l'OTAN vont se réunir ici à Bruxelles, dans 2 semaines, ils vont approuver un communiqué, le programme OTAN 2030, qui reflète aussi cette compréhension accrue et cette convergence de positions concernant les défis posés par la Chine et la concurrence mondiale accrue qui a un impact pour nous ici en Europe et en Amérique du Nord.
Pour la question suivante, nous allons à Oslo. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, vous êtes au courant probablement de la déclaration du Premier ministre à Oslo qui a dit que l'OTAN devrait réduire la portée du programme OTAN 2030. Et elle a dit aussi que l'OTAN devrait aussi faire attention s'agissant des ressources qu'elle allait dépenser. J'aimerais savoir quelle est votre réaction. Est-ce qu'il y a une demande quant à une réduction de l'ambition pour la stratégie OTAN 2030 dans les autres capitales? Quelles sont les remarques des alliés en amont de la réunion des chefs d'État et de gouvernement dans 2 semaines? Nous avons un processus constructif au sein de l'OTAN aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer les décisions à prendre au sommet le 14 juin, donc ici à Bruxelles. Et nous sommes en train de nous rapprocher d'un consensus. Et je salue l'approche constructive démontrée par les alliés de l'OTAN. Ce que nous pouvons voir, c'est que les alliés de l'OTAN comprennent le besoin d'en faire plus de la part de l'OTAN face à un monde plus imprévisible, où il y a plus de concurrence avec plus de défis et des défis de sécurité plus complexes. Et les alliés de l'OTAN ont décidé que l'OTAN devait davantage mettre l'accent non seulement sur la dissuasion et la défense, mais la résilience, la protection de nos infrastructures essentielles, la 5G, les câbles sous-marins, les télécommunications. Et nous devons aussi relever le défi qui viennent des nouvelles technologies. Nous devons faire ce que nous devons faire pour que les alliés maintiennent leur avantage technologique. Et il faut éviter qu'il y ait des écarts entre les alliés lorsque nous identifierons des solutions technologiques plus difficiles, plus complexes pour nos systèmes. Je salue aussi le fait que les alliés aient décidé que l'OTAN devait faire face aux implications sécuritaires du changement climatique. Le réchauffement climatique, le changement climatique ont une incidence sur notre sécurité. C'est un démultiplicateur des crises et il est important que l'OTAN comprenne le lien entre le changement climatique et la sécurité. Nous devons adapter comment nous menons les opérations et les missions militaires, car nos opérations peuvent avoir lieu dans des endroits où il y a des températures excessives, le niveau de la mer qui augmente. En Irak, par exemple, pendant plusieurs jours, il a fait plus de 50 degrés Celsius l'année dernière, et cela a bien sûr des répercussions sur la manière dont nous conduisons nos opérations et nos missions là-bas. Et bien sûr, nous devons contribuer à la réduction des émissions. Davantage de consultations, traiter de la montée en puissance de la Chine, le changement de l'équilibre mondial. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'OTAN 2030. Et je salue le processus extrêmement constructif que nous avons au sein de l'OTAN. Et je suis certain que lorsque les chefs d'État se réuniront ici dans 2 semaines, ils se mettront d'accord sur un programme OTAN 2030 ambitieux. Merci.
Nous revenons à Bruxelles maintenant. Brussels Morning. Merci beaucoup. Merci de me donner la possibilité de poser une question. Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé de l'Afghanistan. CNN a indiqué qu'après le retrait des forces, Al-Qaïda risquait de lancer des attaques en Afghanistan. Comment évaluez-vous la situation et pensez-vous que le retrait des forces se fait dans le bon calendrier? Et puis une deuxième question. Il y a des comptes rendus qui parlent de bases qui seraient installées dans d'autres pays, au Pakistan, au Tadjikistan. Est-ce qu'il y a une possibilité d'emploi de base dans ces pays? Réponse. La situation sécuritaire en Afghanistan reste très complexe et difficile. La décision de retirer nos forces comporte des risques. Néanmoins, être resté sur place aurait également entraîné des risques de combat, de pertes et de devoir renforcer encore cette présence. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'ici quelques semaines de mettre fin à notre présence. Il faut comprendre que nous n'avions jamais prévu de rester pour toujours en Afghanistan. Nous avons réduit notre présence progressivement. Nous sommes passés de quelques 100 000 hommes il y a quelques années à quelques milliers au début de l'année et cette force militaire va être totalement retirée. Néanmoins, nous avons d'autres formes d'aide que nous apportons à l'Afghanistan. Nous allons maintenir notre présence civile pour apporter des fonctions de renforcement de capacité, d'aide et de conseil. Nous allons financer les forces de sécurité afghanes, nous assurer d'apporter un financement conséquent à ces forces de sécurité afghanes et nous allons également fournir, nous prévoyons de fournir des formations à l'extérieur de l'Afghanistan pour les forces afghanes et également aider aux infrastructures, par exemple assurer le bon fonctionnement de l'aéroport et d'autres infrastructures critiques qui sont essentielles pour que la communauté internationale puisse continuer à aider l'Afghanistan. Je voudrais souligner que l'une des choses les plus importantes que nous ayons fait en Afghanistan ces dernières années, alors que nous avons réduit notre présence au fur et à mesure, nous avons entraîné, appuyé, aidé à former des forces de sécurité afghanes compétentes et professionnelles. Et ils sont maintenant responsables d'assurer la sécurité dans leur propre pays. À un moment donné, il faut que les Afghans prennent la responsabilité de leur propre avenir. Je suis impressionnée par la force, le courage des forces de sécurité afghanes. Bien sûr, il y a des risques, des défis à relever, et c'est pourquoi nous continuerons à les appuyer. Je n'ai pas de commentaire à faire ou à parler au nom des États-Unis, mais nous allons voir comment nous pouvons assurer des actions de formation à l'extérieur de l'Afghanistan.
Sabine Siebold.
Reuters, Sabina Siebold. Merci beaucoup, Johanna. Monsieur le secrétaire général, le ministre de la Défense russe a dit aujourd'hui que l'OTAN avait renforcé ses activités militaires le long des frontières occidentales de la Russie. Vous avez aussi dit. Enfin, il a dit aussi que la Russie allait agir. Il va y avoir 20 unités qui seront établies là-bas d'ici la fin de l'année, selon le ministre Shoigu. Quelle est votre réaction? Et pourriez-vous nous donner des détails sur les restrictions imposées aux diplomates russes actuellement à l'OTAN? Merci. Tout d'abord, pour les diplomates biélorusses, nous sommes en train d'évaluer les mesures de sécurité ici à l'OTAN et nous avons décidé de limiter l'accès du personnel biélorusse au siège sur la base de notre évaluation des mesures de sécurité qui existent ici au siège. Ensuite, s'agissant de la Russie, ce que nous sommes en train de voir est un schéma de comportement russe Les Russes ont investi dans de nouvelles capacités militaires modernes, qu'il s'agisse de moyens conventionnels ou nucléaires. Mais la Russie en allait plus loin. Les Russes sont prêts à utiliser des moyens militaires contre leurs voisins en Géorgie, en Ukraine, avec leurs efforts d'instabilisation du Donbass, de l'Ukraine orientale. Ils ont annexé la Crimée. Nous pouvons voir un renforcement militaire dans la mer de Barents, en mer Baltique, à Kaliningrad, en mer Noire, même en Méditerranée et au Moyen-Orient. Et c'est pour cette raison-là que ces dernières années, l'OTAN a augmenté la disponibilité opérationnelle de ses forces et nous avons des groupements tactiques, des bataillons sur le flanc est de l'Alliance. L'Allemagne est chef de file d'un groupement tactique en Lituanie. L'OTAN est une alliance défensive. L'OTAN existe pour défendre les alliés et nous sommes ici pour prévenir les conflits, la guerre. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'envoyer un message à tout adversaire potentiel que si un allié est ciblé, tous les alliés agiront pour préserver la paix. Nous allons aussi poursuivre ce que nous appelons notre approche double vis-à-vis de la Russie. D'un côté, nous apportons de la dissuasion et de la défense crédible. Et de l'autre, nous travaillons sur un dialogue pertinent avec la Russie, car il est important qu'on ait de meilleures relations avec la Russie, qui est un pays voisin. Et même si nos relations avec la Russie ne s'améliorent pas, il est important de gérer cette relation difficile avec la Russie avec une transparence s'agissant des activités militaires, une réduction de risques. Et sur des questions telles que la maîtrise des armements, donc nous poursuivons cette approche double vis-à-vis de la Russie. Nous démontrons notre volonté de défendre et de protéger tous les alliés avec des exercices communs, mais tout ce que nous faisons est de nature défensive. Et le processus OTAN 2030 porte sur le renforcement de la dissuasion et de la défense de manière crédible. Merci.
Terry Schultz de Deutsche Welle. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Je sais que c'est une question qui ne va pas vous plaire, mais je voudrais parler de l'histoire qui est ressortie aujourd'hui concernant le Danemark, qui est une vieille histoire, mais qui revient au premier plan dans les nouvelles. Tout le monde sait que les gouvernements se surveillent les uns les autres, mais cette histoire comme quoi le Danemark a aidé la NSA à espionner sur d'autres pays risque-t-elle de causer des tensions avant votre prochaine réunion? Est-ce que ceci va endommager la confiance entre alliés si certains ne vont pas savoir ce qui aura pu être écouté par d'autres en préparant des réunions au sommet? Donc, pouvez-vous nous dire quelles sont les implications de ceci pour la confiance et l'unité? Réponse. Oui, je connais ces rapports qui ont été publiés, ce qui a été dit, mais je sais aussi que les pays concernés cherchent surtout à établir les faits. L'OTAN en tant qu'organisation n'est pas impliquée, donc ça n'est pas à l'OTAN de s'exprimer sur ce sujet ou d'en traiter. J'imagine que les alliés concernés vont en discuter entre eux pour trouver une solution.
Thank you. Merci, monsieur le secrétaire général. J'aimerais vous poser une question sur le programme du sommet, notamment la politique de la porte ouverte. Est-ce que vous allez parler de ce sujet lors du prochain sommet, donc pour l'Ukraine et la Géorgie? La politique de la porte ouverte de l'OTAN est une histoire couronnée de succès, car cela nous a permis de répandre la démocratie, l'état de droit, tout à travers l'Europe, après la fin de la guerre froide. Et nous avons quasiment doubler le nombre de membres de 16 à 30. La porte de l'OTAN reste ouverte et nous l'avons démontré au cours des dernières années avec d'abord le Monténégro et ensuite la Macédoine du Nord l'année dernière comme nouveau membre de l'OTAN. Nous travaillons avec des pays qui souhaitent devenir membres tels que la Géorgie, l'Ukraine. Et dans notre message, nous disons qu'il est important de mettre l'accent sur les réformes, sur la modernisation des institutions de sécurité et de défense, car pour nous, c'est la meilleure manière de s'intégrer davantage dans la zone euro-atlantique. Et la modernisation des forces de sécurité et de défense est un but en soi, et nous continuons d'apporter du soutien avec différents programmes. Nous allons continuer de le faire. Et je pense que les chefs d'État et de gouvernement s'engageront à continuer de soutenir ces pays partenaires très importants pour l'OTAN.
Robert Lupitsu, de Bucarest. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez abordé la résilience et puis la dissuasion et la défense, qui sont des sujets importants pour le sommet. La Roumanie lance un centre européen de résilience. Ceci intervient avant le sommet. Quelle peut être l'importance de ce centre pour le travail de l'OTAN sur la résilience? Et puis, deuxième question sur le renforcement militaire de la Russie. Pouvez-vous dire quelles sont les mesures qui pourront être décidées par l'OTAN pour assurer une meilleure défense et dissuasion sur son flanc Est? Réponse. La résilience est un sujet très important. C'est notre première ligne de défense, s'assurer que nous avons les télécommunications, les réseaux énergétiques, les câbles sous-marins et tous les éléments de notre infrastructure critique dont nous avons besoin en temps de paix, de crise et de conflit. Nous voyons également de nouvelles tentatives d'affaiblir les infrastructures critiques, notamment par des cyberattaques, ce qui veut dire que nous devons renforcer cette protection de nos infrastructures et cela fait partie de notre programme OTAN 2030. Quant au flanc Est, depuis 2014, l'OTAN a considérablement rehaussé sa présence dans la partie orientale de l'Alliance avec les quatre groupements tactiques dans la région de la Baltique, mais aussi avec une présence avancée adaptée en Roumanie avec une brigade multinationale et la police du ciel dans la mer Noire, ainsi qu'une présence maritime accrue. Nous montrons notre capacité à renforcer notre présence et à profiter de l'exercice Steadfast Defender. J'ai parlé du HMS Queen Elizabeth, le navire britannique qui était au large du Portugal la semaine dernière. À bord de ce navire, il y a des appareils américains de cinquième génération, des frégates des Pays-Bas qui sont en appui et il y a des liens avec d'autres théâtres et aussi cela nous aide pour la mobilité de nos forces à travers l'Atlantique. Nous avons de nouveaux commandements pour la logistique en Allemagne, mais notre secrétaire général délégué est présent en Roumanie pour l'exercice Steadfast Defender avec les forces militaires, les navires, les aéronefs, montrent notre capacité à renforcer notre présence et aussi à déplacer les forces quand nous en avons besoin. Et l'OTAN 2030, c'est la dissuasion et la défense, c'est comment renforcer davantage notre capacité à nous protéger, nous défendre. Donc nous continuons à avancer.
Ketevan Kardava from TV Medi.
TV Medi Georgia. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous m'entendez? Merci, j'ai une question sur la région de la mer Noire. Quelles sont les mesures que l'OTAN pourrait adopter pour qu'il y ait plus de sécurité en mer Noire, car la situation reste fragile? Et nous savons que le sommet va avoir lieu au mois de juin. Est-ce que l'OTAN va inviter des pays candidats au moment du sommet, par exemple? Est-ce qu'il pourrait y avoir une commission OTAN-Géorgie au plus haut niveau? Tout d'abord, le sommet ne sera que pour les alliés, car il s'agit d'un sommet d'un seul jour. Et peut-être que la prochaine fois, le sommet sera plus long. Et peut-être qu'il y aura des réunions de haut niveau avec les partenaires, mais je ne peux pas encore vous dire quand nous aurons un sommet avec les partenaires, mais cette fois-ci, il s'agit d'une réunion très courte, et par conséquent, cette réunion sera que pour les alliés. Ensuite, pour la mer Noire, tout d'abord, nous avons augmenté notre présence en mer Noire. Trois alliés de l'OTAN, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie, se trouvent en mer Noire, et nous avons aussi des partenaires très importants qui se trouvent dans cette région, l'Ukraine et la Géorgie, des pays avec qui nous travaillons sur des questions de sécurité maritime. Nous avons travaillé avec les gardes-côtes géorgiens. La dernière fois que je me suis rendue en Ukraine, nous sommes allés à l'Académie navale d'Odessa et nous avons des conseillers OTAN qui aident les marins ukrainiens à renforcer leurs capacités. Donc nous avons une présence accrue en mer Noire, mais nous travaillons aussi avec les partenaires pour avoir davantage de sécurité en mer Noire. Nous avons des échanges d'informations sur le développement des capacités. Et nous avons aussi une présence OTAN dans la région de la mer Noire, sur terre, en mer et dans l'air. Et l'exercice Set Fast Defender est une démonstration claire de notre capacité de travailler en tant qu'alliance, déployer des forces rapidement à travers l'Europe, et tout particulièrement en mer Noire et en Roumanie, car l'exercice est fondé sur un scénario qui relève de l'article 5, où nous devons démontrer notre capacité de nous défendre et de protéger les alliés de la région de la mer Noire.
Question suivante de la représentante du média Pobieda. Nous n'avons pas de connexion pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. Monsieur le secrétaire général, la semaine prochaine, cela fera 4 ans que le Monténégro sera devenu membre. Est-ce qu'il y a une différence dans la coopération au début de l'adhésion et l'état de la coopération maintenant avec le changement politique qui est intervenu? Réponse. Le Monténégro est un allié que nous apprécions beaucoup. Le Monténégro contribue aux missions et opérations de l'OTAN et je me félicite du fait que le Monténégro soit membre de l'Alliance. J'ai m'étais félicitée de cette décision quand elle a été prise il y a quelques années. J'ai rencontré récemment le président du Monténégro et également le premier ministre représentant le nouveau gouvernement de coalition. Ils m'ont tous deux assuré du fait que le Monténégro allait rester un allié engagé en faveur de l'Alliance. L'OTAN est une alliance qui réunit 30 démocraties et il est normal qu'il y ait des positions différentes. Ce qui importe, c'est que le Monténégro continue à montrer dans les actions qu'ils sont engagés à jouer leur rôle en tant qu'alliés. C'est bon pour le Monténégro, pour toute la région.
Two final questions.
Nous avons le temps pour deux dernières questions. Moustapha Safa de Radio Free Europe. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Quel est l'engagement de l'OTAN vis-à-vis de l'Afghanistan à plus long terme, car les troupes internationales sont en train de se retirer des pays? Et selon vous, face à la menace accrue, quel est le niveau, par exemple, des forces de sécurité afghanes?
There is no doubt.
Il n'y a aucun doute que l'Afghanistan est confronté à des défis extrêmement complexes. La marche à suivre est difficile, mais je suis convaincue qu'il est important que l'Afghanistan prenne responsabilité pour leur propre avenir. Il faut qu'il y ait un processus de paix qui appartient aux Afghans et qui est mené par les Afghans. Même si notre mission militaire va se terminer, nous allons continuer de soutenir l'Afghanistan avec du personnel civil. Nous allons contribuer au développement des capacités. Nous allons continuer de financer les forces de sécurité afghanes. Nous allons aider aussi pour le maintien des infrastructures essentielles, y compris l'aéroport. Il y aura aussi des formations qui seront proposées à l'extérieur de l'Afghanistan. Nous allons réduire donc nos troupes de 100 000 à son pic à bientôt zéro lorsque nous terminerons la mission. Je ne suis pas en train de sous-estimer les défis. Cela fait 20 ans que nous sommes présents en Afghanistan et nous allons continuer de leur apporter notre soutien, mais pas avec une présence militaire en Afghanistan.
Et la toute dernière question de l'agence Kuwaiti. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Va-t-il y avoir des discussions concernant la situation au Moyen-Orient durant la ministérielle et durant le sommet de l'OTAN? Réponse. L'initiative OTAN 2030 sera au cœur du sommet. Dans ce programme OTAN 2030, nous regardons aussi l'importance des partenariats, le travail que nous pouvons faire avec nos partenaires pour stabiliser nos voisinages, sachant que c'est dans notre intérêt d'avoir plus de sécurité dans les pays voisins. Nous avons des partenaires dans la région du Moyen-Orient. La Jordanie est un partenaire étroit que nous apprécions beaucoup. Nous avons le format de partenariat qui est le dialogue méditerranéen, qui réunit de nombreux pays de cette région. Nous avons aussi un partenariat étroit avec le Koweït et certains pays du Golfe. Nous avons un centre d'entraînement au Koweït et j'ai eu le plaisir d'inaugurer ce centre il y a quelques années et ensuite d'y retourner, de voir toutes les activités qui ont lieu et qui sont importante pour la région et pour l'OTAN et ses partenaires. Et puis nous avons la mission de formation de l'OTAN en Irak. Nous estimons que le fait d'aider à la formation des forces de sécurité irakiennes, renforcer les institutions sécuritaires irakiennes va nous aider à lutter contre le retour de Daesh. Nous renforçons cette mission avec une coordination étroite avec le gouvernement irakien sur invitation de ce gouvernement. Donc effectivement, les partenariats, le renforcement de ces partenariats avec les pays de la région du Moyen-Orient est très important pour nous et ceci va s'inscrire dans les discussions et les décisions qui seront prises au sommet de l'OTAN plus tard ce mois. Merci beaucoup. La conférence de presse se termine. Bon après-midi à tous.